Demain, tu es mon tabarnak, je te le dis pour rien.
T'es en une plus, dinam... avoir menti à la population.
Ouais, menti à la population. Nous avons une vidange ici, monsieur Poirier, la vidange de TVA.
Oui.
95.7 Geek, Saguenay, le show du matin, avec Dominique Fortin, Marc Diquet, Martin Thomas Côté et Tania Clouston. Le show du matin. Pour nous...
h40 dans le show du matin, ce que vous venez d'entendre, ça s'est passé lors de la manifestation à Québec pour ceux qui sont contre le port du masque. Et depuis le début de la pandémie, les médias semblent être dans le collimateur des gens qui croient à la conspiration ou qui croient qu'on ne les informe pas bien, qu'il y a un énorme complot avec le gouvernement, qu'on est à la solde des gouvernements, payés par les gouvernements. Mettons que la confiance envers les médias et le journalisme en tant que tel en prend pour son rhume avec tous les médias alternatifs qui dévoilent la vérité. Et malgré tout, on a toujours la même réflexion, savoir, bon, est-ce qu'on doit leur donner de l'importance? Est-ce qu'on doit couvrir leur événement? Est-ce qu'on doit... Et là, de ne pas le faire, c'est presque leur donner raison qu'on cache des choses. Et de le faire, ben, c'est de s'exposer à ce que M. Poirier a reçu comme traitement en fin de semaine. Et Karianne Bourassa aussi, elle, qui s'est fait carrément là, coller par deux individus en pleine télé. C'est des gestes qui sont de l'intimidation,
bon, oui, carrément. C'est pas chic, là. Se faire tirer une canne de bière par la tête, là. C'est pas, on peut pas dire que c'est pacifique.
Effectivement, Jean-Thomas Léveillé est journaliste à la presse et vice-président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Monsieur Léveillé, bon matin.
Bonjour.
On va se le dire, c'est pas une période qui est facile pour le journalisme.
Non, c'est pas une période qui est facile. Vous l'avez bien dit, là, il y a une espèce de problème de confiance envers les médias, puis on pourrait réfléchir longtemps sur le problème là. Peut-être que les médias, dans les dernières années, les dernières décennies, ont fait des choses qui ont contribué à amener ça. Mais je pense que la question aujourd'hui, c'est pas de trouver le coupable puis la raison pour laquelle il y a un problème de confiance. Les médias travaillent beaucoup là-dessus aussi sur ce problème de confiance là. Rappelons aussi le problème de confiance là. Faut relativiser le problème de confiance avec une certaine partie de la population, parce que ça reste que, quand on regarde les sondages d'opinion, il y a quand même une majorité de personnes qui continuent de faire confiance aux médias traditionnels puis qui comprennent leur fonctionnement. Je pense qu'une grosse partie du problème, c'est aussi une question d'éducation. C'est vrai pour l'éducation aux médias, comme c'est vrai pour bien d'autres sujets dans notre société, que ce soit l'éducation à la science, l'éducation à la sexualité, c'est qu'à un moment donné... peut-être que les gens savent pas comment ça fonctionne un média, savent pas qu'on a des règles de déontologie puis des règles de professionnalisme très très strictes, puis que on dit pas, contrairement à ce que bien des gens pensent, on dit pas n'importe quoi, on n'écrit pas n'importe quoi. Tu sais, quand on va écrire ou dire quelque chose, c'est parce que ça a été vérifié, ou c'est parce que c'est une source qui nous le dit, puis on le dit aussi là. C'est pas, les gens confondent le message et le messager aussi. Quand un journaliste dit le gouvernement vous dit qu'il faut poser un masque, là, c'est pas le, moi, le, nous, en tant que journalistes, on n'est pas là pour penser quoi que ce soit. Là. Nous, on véhicule un message. Puis comme en fin de semaine, on a aussi véhiculé le message de gens qui sont contre ça, le masque. Alors vous disiez, est-ce que c'est leur donner trop de visibilité que de parler d'eux quand il y a une petite manif? Est-ce que c'est de faire leur donner un peu raison si on n'en parle pas? C'est toutes des questions qu'on se pose. Puis on fait la balance de ça, puis au final, ben là, dans ce cas-là, les gens ont décidé d'en parler. Mais je fais une petite précision aussi, l'incident dont a été victime Yves Poirier en fin de semaine, ça, c'était la manifestation à Montréal samedi. Mm-hmm. Puis Mme Bourassa, elle, c'était la manifestation à Québec dimanche, effectivement. Donc, tout ça pour dire que on peut penser longtemps à qu'est-ce qui a causé le manque de confiance d'une certaine partie de la population vers les journalistes, mais ça excuse en rien les gestes qu'on a vus en fin de semaine. Je veux dire, quand est-ce que c'est devenu socialement acceptable d'être vulgaire, agressif, déplacé comme ça envers d'autres personnes dans la société.
Peut-être quand ces gens-là ont décidé qu'on était, puis je parle des journalistes en général ou encore les médias, regarde, ça fait 30 secondes qu'on se parle, puis j'ai déjà plein de monde qui me tritonne. Peut-être quand on est devenu l'ennemi numéro un, j'ai l'impression que ce qui s'est passé chez nos voisins du Sud a accentué tout ça. On a vraiment l'impression qu'on fait partie d'un vaste complot puis qu'on est l'ennemi à abattre. Ce qu'on a fait à Yves Poirier en fin de semaine, c'est une agression carrément, là.
Oui, mais c'est parce que, justement, c'est une agression carrément. Et ce qu'on a fait à Mme Bourassa en dimanche à Québec, c'est une agression aussi. Puis, pensez bien que, je dirais pas que c'est pire pour elle, mais je veux dire, pensez bien que c'est le quotidien des femmes journalistes, même si on oublions la COVID puis le masque et tout ça, là. Rappelez-vous, on en a parlé là, il y a une couple d'années, là, le fameux fucker right in deputy. Je vais juste dire ça à la radio. Les femmes journalistes sont victimes d'agressions beaucoup plus que les hommes, indépendamment du contexte. Et ça, c'est un foutu problème. Et je veux dire, les femmes en général, pas juste les journalistes, mais donc c'est doublement difficile pour les femmes journalistes de faire leur travail à cause de ça, à cause de gens irrespectueux qui se permettent des comportements d'une autre époque qui ne sont pas acceptables aujourd'hui et qu'on dénonce vivement. Donc ça, première des choses. Puis deuxième des choses, là, si j'irai même pas sur le fond de est-ce qu'il y a complot ou pas, est-ce qu'on est parti d'un grand complot, je trouve ça tellement ridicule, mais mettons pour ceux qui croient dur comme fer à ça, là, que les médias font partie d'un complot, là, est-ce que ça justifie d'agresser physiquement ou verbalement quelqu'un? Mettons que vous n'êtes pas d'accord avec ce que les médias disent, là, est-ce que ça justifie ça? Moi, je dis que non. Et souvent, je pense que pour bien comprendre la portée et la gravité de ces gestes-là, c'est intéressant de sortir du contexte. Alors, oublions le journalisme, là, sortons du contexte. Est-ce que ce serait acceptable si vous trouvez que le signaleur routier qui fait les travaux sur le chantier, sur la route, là, ben, il vous laisse pas passer assez vite? Est-ce que c'est acceptable de descendre de votre pick-up puis d'aller l'agresser, l'enlacer, l'insulter, lui tirer des canettes de bière? C'est pas acceptable, évidemment. Est-ce que ce serait acceptable de faire ça à un enseignant à l'école de vos enfants? Est-ce que ce serait acceptable de faire ça à un policier? Évidemment que non, c'est pas acceptable. Et en plus, dans le cas des médias, il y a toutes sortes de façons. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les médias qui ont un code d'éthique, qui ont des façons sérieuses de travailler. Dans tous les médias d'information, il y a des outils pour le public. Si vous pensez qu'il y a un reportage qui est biaisé, qui est mal fait, qui est malhonnête, qui comporte des erreurs, il y a plein de façons pour le public de s'en plaindre et d'obtenir correction. Il y a des médias, comme les plus grands, comme les médias publics que sont Radio-Canada et CBC, il y a des ombudsman. Vous pouvez appeler la direction. Et puis, si vous n'êtes pas content, au Québec, on a le Conseil de presse du Québec, qui est un espèce de tribunal d'honneur qui juge les médias. Alors, il y en a plein de façons pour se plaindre du travail des journalistes s'il n'est pas correct. Et agresser des gens sur leur lieu de travail n'est certainement pas une façon acceptable, peu importe ce que vous pensez de leur travail.
Sortons peut-être un peu là, du contexte des deux agressions qu'il y a eu en fin de semaine. Est-ce que ça inquiète votre organisation, par exemple? Puis ça, tu sais, on le voit, de voir le gouvernement être de plus en plus impliqué dans le mode de financement des différents médias. Puis je m'explique, la COVID a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de campagnes de publicité sur les différents médias. Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez? Puis est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Bien, il y a plusieurs angles dans votre question, là. Nous, on s'inquiète énormément de la perte de confiance envers les médias. Puis on y travaille très fort avec des programmes d'éducation aux médias comme 30 secondes pour y croire, c'est un succès dans les écoles secondaires du Québec. On se promène partout pour expliquer justement aux jeunes comment ça marche, un média, puis comment on en arrive à diffuser une information avant de la diffuser. Donc ça explique aux gens comment ça fonctionne, puis ça aide à comprendre. Ensuite, on est très préoccupé par la désinformation qui est accentuée par les réseaux sociaux de nos jours. Tu sais, à une époque, je me souviens, ma grand-mère voyait quelque chose à la TV, puis elle croyait forcément que c'était vrai parce que ça avait été dit à la TV. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, souvent, les gens ont un peu le même réflexe avec Internet. Ah, j'ai trouvé ça sur un blog obscur d'un gars qui ne sait pas ses sources, mais c'est sur Internet, ça doit être vrai. Donc, ça revient au problème de confiance un peu qu'on avait envers les médias. Pourquoi les gens croient davantage une source d'information bidon, souvent fausse, qu'un média établi? Donc ça, oui, ça nous préoccupe. Puis je pense que tous les médias, puis c'est pas juste au Québec, là, c'est partout dans le monde, travaillent là-dessus. Mais je reviens aussi à ce que je disais. Je pense que ça reste une minorité de gens qui ont un problème de confiance envers les médias. On essaie de leur expliquer notre travail. Puis les médias sont hyper transparents sur leur façon de faire. Alors, on espère que les gens vont avoir la même curiosité qu'ils ont pour des blogs obscurs qui véhiculent des informations un peu absurdes qu'envers les grands médias. Puis ils vont s'interroger, vont se questionner sur le fonctionnement des médias. Puis ils vont voir qu'on fait un travail sérieux. Je reviens à votre question sur le financement des médias. C'est sûr que dans le rêve le plus fou de tout journaliste indépendant, y aurait aucune source de financement externe des médias pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Le fait est que ça marche pas comme ça dans la vie. Hein. Ça prend de l'argent pour fonctionner. Puis faire du journalisme, ça prend beaucoup d'argent parce que on s'assoit pas juste sur un coin de table, faire une recherche Google, mm-hmm. puis publier la première niaiserie qu'on trouve, comme bien des gens font sur les réseaux sociaux. Des fois, là, sortir un article, un reportage, ça peut être des semaines de travail pour valider les informations, pour arriver avec des informations fiables puis béton. Donc, ça prend de l'argent faire de l'information, ça coûte cher. Alors, oui, il faut s'en remettre à la publicité, que ce soit d'organismes privés ou publics, mais oui, il y a eu beaucoup de publicité dans les médias depuis la COVID des gouvernements, mais il y en a toujours eu là, de la publicité des gouvernements dans les médias depuis la nuit des temps. Là. Je veux dire, les annonces, les avis publics, là, les municipalités et les gouvernements payaient pour mettre ça dans les journaux. Les campagnes de sensibilisation sur le sida, il y a des dizaines d'années, je veux dire. Les gouvernements payent, comme une compagnie privée paye pour mettre une pub de char dans le journal. Mm-hmm. Alors, mais il y a des mécanismes très solides. Puis je vous dirais que ça varie d'une société à l'autre, mais dans le monde anglo-saxon, là, au Québec, on dit souvent l'expression un mur de Chine. Il y a un mur de Chine, il y a une barrière solide entre le département de la publicité puis la salle de rédaction. Là, au point où, par exemple, je vais donner l'exemple de la presse où je travaille. Quand on monte le journal, d'abord, moi, comme journaliste, quand j'écris mon article, je ne sais même pas si dans la page de mon article, je vais être tout seul ou si je vais avoir une pub à côté de mon article. Ça, je ne sais même pas. Mes boss à moi qui préparent l'ordre des pages, je dis, bon, je suis en train de l'éveiller, on va le mettre en page 3 aujourd'hui. Eux, ils savent qu'en page 3, il y a une pub, mais ils ne savent même pas c'est quoi. Puis les gens qui font le montage du journal le soir, ils ne savent même pas non plus. C'est un autre département. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucun impact. Alors, maintenant, si votre question, c'est plus les programmes de subvention, si on sort de la pub et vous parlez des programmes de subvention, encore là, il y a des mécanismes assez rigoureux pour empêcher toute influence indue, mais je comprends là, que ça ne va jamais satisfaire pleinement tout le monde, mais c'est parce que l'autre solution, c'est que...
On laisse les blogs faire, puis qu'on laisse l'information ne pas être traitée de façon professionnelle, puis là, c'est pas mieux.
C'est certainement pas mieux. Je veux dire, regardez les sociétés où il n'y a pas de médias libres, regardez comment ça se passe, dites-moi si c'est de ça dont vous avez envie.
Effectivement. Hey, Monsieur Léveillé, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Vous aussi, au revoir.
Jean-Thomas Léveillé est journaliste à la presse, mais aussi vice-président de la FPJQ, donc de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.